n'a jamais été très simple pour un père de se situer correctement par rapport à ses enfants. Je parle d'expérience. Mais la destruction systématique de tous les modèles anciens a rendu plus difficile encore l'art d'être papa. Où regarder aujourd'hui, dites-moi, pour trouver une image du père qui puisse servir de référence utile parce qu'exemplaire. Ma proposition ce matin est que, pour ce qui nous concerne, et je ne vous surprendrai pas, nous tournions nos regards vers Dieu. Et plus précisément vers le Dieu que nous dévoile de façon si admirable ce petit livre du prophète Osée, dont nous avons déjà tenté, il y a de cela quelques semaines, d'extraire quelques richesses. Ce petit livre d'Osée qui, après nous avoir dépeint le Seigneur en époux malheureux, souvenez-vous, c'était la Saint-Valentin, et c'était le thème de notre méditation, qui donc, après avoir dépeint le Seigneur en époux malheureux d'une nation infidèle, nous le présente sous les traits d'un père. Un père tourmenté parce qu'en butte à l'ingratitude et au mépris de son fils. Étonnant portrait à la vérité qui, en même temps qu'il nous découvre Dieu, nous révèle le sens profond du mot « Abba », père. Osée, chapitre 11. Ce texte est à cet égard particulièrement instructif et sa lecture, à ce stade de notre réflexion, indispensable. Alors nous la ferons, une fois n'est pas coutume, dans une version admirable, celle proposée par la Bible en français courant. Pour une fois. Versets 1 à 4 d'abord. Quand Israël était jeune, dit le Seigneur, je me suis mis à l'aimer et je l'ai appelé, lui, mon fils, à sortir d'Égypte. Mais ensuite, plus je l'appelais et plus il s'éloignait de moi. Mon peuple offre des sacrifices à Baal et aux dieux de cette espèce. Il brûle des offrandes en l'honneur des idoles. C'est pourtant moi qui avais guidé les premiers pas d'Éphraïm et l'avais porté dans mes bras. Mais il n'a pas reconnu que je prenais soin de lui. Je le dirigeais avec ménagement, lié à lui par l'amour. J'étais pour lui comme un père qui porte son petit enfant, qui le porte tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Versets 8 et 9 ensuite. Pourtant, comment peut-on imaginer que je t'abandonne, Éphraïm, que je te trahisse, Israël? Comment pourrais-je en venir à te traiter comme les villes d'Adma et de Séboïm? Une telle décision me bouleverserait. Le regret me brûlerait. Ce n'est pas mon indignation qui aura le dernier mot. Et je ne reviendrai pas à l'idée de détruire Éphraïm, car je ne suis pas un homme, je suis Dieu, moi. Chez toi, Éphraïm, je suis le Dieu saint, et je n'arrive pas pour montrer ma fureur. Nous arrêterons là notre lecture. Bouleversant, non, ce texte si riche dans lequel Dieu s'auto-représente, c'est lui qui parle, dans lequel Dieu nous propose un second selfie, pour reprendre cette expression à la mode, comme un père pour les siens. Et quel père, se distinguant tout à la fois par sa tendresse, sa fermeté, sa fidélité et sa grâce. Tendresse, fermeté, fidélité grâce, quatre qualités qui, réunies en Dieu, font de lui un père exemplaire. Quatre qualités sur lesquelles il convient donc que nous nous arrêtions maintenant quelques instants. Histoire d'être au clair sur ces vertus que nous, pères, et plus largement nous, parents, sommes appelés aujourd'hui à reproduire. Tendresse d'abord. Dieu n'a manifestement pas attendu l'irruption sur notre scène familiale des papas poules pour donner à tous une leçon de tendresse paternelle. Quand Israël était jeune, nous confie-t-il au verset 1, « Je me suis mis à l'aimer. » Comme un père qui, à la naissance de son enfant, l'adopte. Et le Seigneur doit se décrire alors, versets 3 et 4, comme celui qui prenait plaisir à guider les premiers pas d'Éphraïm, son fils. « Je dirigeais alors, se souvient-il, avec ménagement, lié que j'étais avec lui par l'amour. J'étais pour lui comme un père qui porte son petit enfant tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » Étourdissant. Mais quand on vous dit que notre Dieu est unique, lui le Créateur et Maître de l'univers, infiniment élevé au-dessus de tout ce qui est, lui, entendez-le bien, n'a jamais aspiré qu'à une chose, entouré de ses soins les plus tendres, ses enfants, dont nous faisons partie, du moins je l'espère. Ah, la touchante bonté, l'attendrissante douceur du Seigneur qui aujourd'hui encore enveloppe toutes celles et tous ceux dont il a eu un jour le bonheur de pouvoir faire ses filles et ses fils. Oui, l'étonnante tendresse divine qui nous environne, nous tous qui, par la foi, nous sommes jadis solidement liés à lui. Elle est à coup sûr notre bien le plus précieux dans le monde dur, sec et froid que nous connaissons. Et dans le même temps, pour nous, pères terrestres, parents, un appel à plus de tendresse encore dans nos rapports avec ceux qui nous ont été donnés comme enfants. Qui a dit que la douceur était l'apanage des femmes ? Pour Dieu, bonté, sensibilité, délicatesse riment avec père aussi bien qu'avec mère. Et il attend clairement de nous, père, qu'à sa suite, nous entourions nos filles et nos fils de notre plus chaude affection, n'hésitant pas à les choyer, les câliner, les dorloter même, comme lui, le premier, aime à cajoler les siens, si j'en crois son propre témoignage, leur prodiguant chaque jour les marques d'affection et les paroles tendres qu'il sait indispensables au développement harmonieux et au plein épanouissement de leur personne. Le Dieu d'Osée est donc un père exemplaire par sa tendresse d'abord. Mais également, nous l'annoncions il y a quelques instants seulement, par sa fermeté. Sa fermeté. Qu'on ne s'y trompe pas. Tendresse ne signifie pas faiblesse. Tendresse ne signifie pas faiblesse. Témoin, le Dieu que nous donne à voir le texte qui nous occupe ce matin. Aussitôt après qu'il nous a dit l'extraordinaire affection dont il a entouré depuis sa naissance son jeune enfant, le Seigneur nous livre la raison de sa colère présente. Car il est en colère. Israël s'est éloigné de lui. Comme quoi, je le répète, soit dit en passant, le meilleur des pères n'est jamais à l'abri d'un rejet brutal. Jamais. Et pareille rupture ne signifie pas forcément qu'il a failli dans l'exercice de sa responsabilité particulière. Mais revenons à l'explication que le Seigneur nous donne de son courroux, verset 3. Il n'a pas reconnu que je prenais soin de lui. Verset 2. Et le voici qui aujourd'hui offre des sacrifices à Baal et aux dieux de cette espèce et brûle des offrandes en l'honneur des idoles. Et le Seigneur a beau aimer son fils comme personne ne l'a jamais aimé, ni ne l'aimera jamais, il lui en veut. Il lui en veut d'abord de l'avoir brutalement abandonné, lui, son père, son bienfaiteur, qui avait pris plaisir à le combler en lui accordant toujours ce qu'il y avait de meilleur pour assurer son bonheur. Il lui en veut. Il lui en veut ensuite d'avoir choisi délibérément d'emprunter désormais toutes les voies sauf celles qu'il lui avait pourtant si soigneusement indiquées. Il lui en veut enfin de rester désespérément sourd à ses appels. Verset 2, notre traduction cette fois, « Plus je l'appelle, plus il s'éloigne de moi. » Plus je l'appelle, plus il s'éloigne de moi. D'où ces rugissements, c'est le mot, verset 10, qui traduisent bien la violence du sentiment qu'il éprouve lorsqu'il pense à son enfant rebelle. Et pas seulement, les sanctions aussi, comme l'effroyable occupation assyrienne qu'il envisage de prendre et finira par prendre contre lui. Des sanctions. Car Dieu ne saurait laisser impunis les ingrats arrogants qui, après qu'ils ont amplement profité, bénéficié de ses largesses, défient sa loi, rejettent ses voies et foulent aux pieds son autorité. Le témoignage de la Bible sur ce point est sans ambiguïté. On ne brave pas le Seigneur de l'univers sans risque. Et de fait, se détourner de lui revient à s'exposer aussitôt aux rétributions les plus sévères. Israël est bien placé pour le savoir, qui pour s'être cru libre de quitter la maison de son père, en claquant violemment la porte, a connu les pires misères. Oh, rien de plus que ce dont Dieu l'avait menacé, au cas où il se révolterait contre lui, mais rien de moins non plus. Parce qu'à la différence de nombre d'entre nous, notre Père, lui, ne bluffe pas quand il avertit. Il ne bluffe pas quand il avertit son enfant récalcitrant. Cet enfant-là subira donc l'intégralité du châtiment promis. À moins, bien sûr, qu'il se repente. Mais ceci est déjà une autre histoire. Revenons au Dieu d'Osée. Un père tendre, nous l'avons vu, mais ferme également, qui certes répugne à menacer, mais qui, une fois qu'il a averti, applique avec rigueur la sentence annoncée. Principe pédagogique que nous ferions bien de retrouver. Avis donc à chacun que personne ici ne prennent les marques de tendresse prodiguées par Dieu pour un aveu de faiblesse de sa part et ne se risque du coup à exciter sa colère en s'accordant par exemple de vivre selon d'autres règles que celles qu'il a lui-même fixées une fois pour tous, pour l'ensemble de sa maisonnée. Tout doux qu'il est, notre Père lui ferait tôt ou tard amèrement regretter cette initiative insensée. Ainsi, le Dieu d'Osée se distingue-t-il non seulement par sa tendresse, mais encore par sa fermeté, deux qualités inséparables chez lui, et qu'il aimerait certainement voir plus souvent jointes chez nous. Mais il nous faut poursuivre et citer maintenant la troisième de ces qualités manifestées par Dieu dans notre prophétie, et qui font de lui un père exemplaire, je le rappelle. Je veux dire la fidélité. La fidélité. Israël donc s'est révolté contre Dieu. Le fils ingrat, profondément ingrat, s'est retourné contre son vieux et sans un mot de remerciement l'a quitté. Toute ressemblance avec une certaine parabole du fils prodigue est totalement volontaire. Derrière sa colère, parfaitement justifiée, On imagine la peine du père cruellement bafoué. Une peine d'autant plus vive qu'il sait l'enfant qu'il a chéri, bien décidé à mener désormais hors de la maison et dans le monde, une vie à l'opposé de celle qu'il avait rêvée pour lui. À l'opposé. Comment dès lors ne souffrirait-il pas, lui qui avait formé tant de beaux projets pour son garçon et qui le voit maintenant non seulement s'éloigner de lui, mais encore courir à sa perte en piétinant allègrement, une à une, les valeurs pourtant fondamentales qu'il avait cru pendant des années lui avoir inculquées. Dieu donc souffre terriblement. C'est lui qui le dit, encore une fois. Nous parlions plutôt de son juste courroux, mais plus forte encore que son emportement et sa blessure. Et on se dit alors que, mortifié comme il est, Dieu va rejeter une bonne fois ce fils qui lui fait honte. Couper les ponts, rompre définitivement avec lui. N'est-ce pas après tout ce que mérite cet enfant indigne? Ce qu'il mérite et qu'il désire par-dessus le marché. Oui, on se dit qu'à sa place, c'est ainsi sans doute que l'on agirait, on ferait la part du feu, en quelque sorte, se résignant à abandonner celui qui est perdu avec l'espoir de sauver l'honneur du reste de la famille. Et Dieu de nous couper alors, sèchement, verset 9, « Mais moi, je ne suis pas homme, je suis Dieu. Je ne suis pas homme, je suis Dieu. » Autrement dit, cessez de me prêter vos sentiments. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ne cherchez donc pas à deviner mes décisions. Elles seront toujours ou presque celles que vous n'attendez pas. Écoutez plutôt ce que j'ai à dire à mon fils à cette heure. Verset 8. Comment peut-on imaginer que je t'abandonne, Éphraïm, que je te trahisse, Israël? Comment pourrais-je en venir à te traiter comme les villes d'Adma et de Séboïm? Une telle décision me bouleverserait, le regret me brûlerait. Là encore, je dis proprement stupéfiant. Pour Dieu, l'idée d'abandonner son garçon est plus insupportable encore que celle d'être raillé, bafoué, outragé par lui. Il la rejette donc aussitôt. Dût-il porter son opprobre 10 ans encore, ou 15, ou 20, ou 30, il ne rompra pas avec son enfant. Et l'engagement qu'il prend ici à son égard est formel, je ne te délaisserai pas. Formidable exemple de fidélité. Par respect de la liberté de son fils, il ne s'est pas opposé hier à son départ. Par respect. Après qu'il l'eut dûment averti, il l'a laissé aller. Par souci de voir la justice l'emporter, il refuse aujourd'hui d'intervenir pour soustraire son garçon aux sanctions qu'il mérite. Cela dit, son regard ne s'est pas détourné un instant de celui qu'il avait choisi d'aimer d'un amour éternel. Et ses yeux, croyez-moi, ne sont pas prêts de le quitter, guettant toujours ce signe tant attendu, leur indiquant que le fils prodigue a commencé de se reprendre et n'exclut plus de rentrer bientôt à la maison. Puisse cette fidélité absolue de Dieu, si clairement mise en évidence dans notre prophétie, à la fois nous rassurer et nous inspirer. Nous rassurer d'abord, quels que soient nos errements, quels que soient nos errements. Dieu, pour peu qu'il reconnaisse en nous ses enfants, ne nous abandonnera pas. Rien donc, comme cela est dit tout à l'heure dans une prière, rien donc ne nous séparera jamais de son amour. Et nous inspirer ensuite, père et plus largement parent, ayons à cœur de manifester à l'égard de nos enfants difficiles, et il arrive que le Seigneur nous en donne, de manifester à l'égard de nos enfants difficiles une fidélité qui, parce qu'elle est à toute épreuve, rappellera celle de Dieu. Mais il nous faut poursuivre et évoquer, après la tendresse, la fermeté et la fidélité, cette dernière qualité de Dieu qui font de lui un Père exemplaire, je veux dire la grâce. La grâce. Jugez plutôt. À quoi le Dieu Père d'Osée pense-t-il tandis qu'il suit son peuple fils errant du regard? Réponse, à tout le bien qu'il pourra bientôt lui faire. À tout le bien qu'il pourra bientôt lui faire. Étonnant, non, mais Dieu, notre Dieu, est comme cela. Il peut être à la fois profondément irrité et terriblement triste à cause de nous, et cependant heureux déjà à l'idée que nous allons lui revenir un jour et qu'alors il pourra à nouveau répandre sur nous, ses enfants, la richesse de ses bienfaits. Vous ne me croyez pas? Relisons ensemble le verset 9. « Ce n'est pas, dit le Seigneur, mon indignation qui aura le dernier mot. » Pas question. Et Dieu, dont la colère n'est pas encore épuisée, ni le chagrin dissipé, de confier sans attendre à son fils rebelle ses projets, verset 9, verset 10, verset 11, jamais plus ne lui reviendra l'idée de le détruire. Il s'approchera de lui, certes, mais non pour lui montrer sa fureur, pour l'appeler plutôt et l'inviter à reprendre sa place, toute sa place dans sa maison. Incroyable. Cette confidence, pour le moins inattendue, s'explique. Pourtant, Dieu souffre. Il souffre trop de l'absence de son garçon pour ne pas rêver déjà tout haut à la fois son retournement et son retour. Et saluer par avance son apparition sur le pas de la porte, pour ainsi dire, en imaginant tout ce qu'il entreprendra immédiatement pour assurer définitivement le bonheur de son fiston bien-aimé, enfin, enfin retrouvé. Sublime image que celle-là. Dieu, encore en proie au ressentiment et même à l'amertume, qui déjà savoure l'instant où il pourra faire grâce à son enfant indigne, mais repentant. Oubliant une bonne fois sa révolte et le rétablissant d'un coup dans tous ses privilèges de fils. Alors promet-il au chapitre 14, un autre texte, « Je le guérirai de son infidélité. » Et, écoutez bien, « Je n'aurai pas à me forcer pour lui montrer mon amour, car je ne lui en veux plus. » Osée 14. « Je serai pour lui comme une rosée bienfaisante, alors il fleurira comme un lys, il s'enracinera comme les arbres du Liban, il deviendra florissant, beau comme un olivier, et répandra le parfum des forêts du Liban. » Et là je dis, puisse cette autre perfection de Dieu si parfaitement mise en lumière dans notre prophétie, la grâce, nous consoler elle aussi et nous inspirer à nouveau. Nous consoler, déjà. Quelles que soient les déceptions que nous lui avons causées, je vous invite, pendant quelques secondes, à réfléchir à toutes les déceptions que vous avez pu causer à votre Père céleste, récemment ou il y a plus longtemps. Quelles que soient ces déceptions, quelles que soient les déceptions que nous lui causons aujourd'hui, que nous lui causerons hélas probablement demain encore, Dieu, dès lors que nous sommes ses enfants, brûle de nous voir revenir à lui pour pouvoir enfin faire de nous les cibles heureuses de sa grâce, inexplicablement, autant qu'infiniment riche. Et nous reprendre, mais pour de bon cette fois, sous son toit. Écoutez sa voix, chapitre 14, toujours, verset 8. les miens reviendront habiter sous ma protection. Ils cultiveront le blé, ils prospéreront comme la vigne, ils auront la réputation des grands vins du Liban. J'aime ces images. Mais je reprends le début de ce texte, les miens reviendront habiter sous ma protection. Nous consoler d'abord. Notre Dieu est un Dieu de grâce qui aime à effacer, oublier, repartir à zéro. Qui aime à nous retrouver pour pouvoir nous couvrir à nouveau de son amour. Nous consoler, mais nous inspirer aussi. Père et plus largement ici encore parents, ayons à cœur de manifester à l'égard de nos enfants contrits une générosité qui, parce qu'elle rêve de passer l'éponge sur tous les torts subis et de gâter à nouveau l'être aimé, rappellera celle de Dieu. La grâce comme un modèle. Il nous faut conclure. Permettez que je le fasse très simplement en rappelant ces quatre qualités divines particulièrement visibles dans le livre d'Osée et qui font du Seigneur un Père modèle, la tendresse, la fermeté, la fidélité et la grâce. Pourquoi ? D'abord, peut-être pour nous inviter à nous rassembler à nouveau dans l'adoration. Notre Dieu est vraiment un Dieu magnifique et c'est peu dire que de dire cela. Notre Dieu est vraiment un Dieu magnifique qui se veut notre Père. Et à ce titre, nous environne de sa tendresse, nous corrige, mais seulement par amour. Nous assure de son indéfectible affection et n'est jamais plus heureux que lorsqu'il peut nous faire grâce et nous offrir à nouveau ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Si un tel Dieu ne mérite pas que nous l'adorions. Et ensuite, pour que s'imprime bien en nous cette image exemplaire du Père, que Dieu nous appelle aujourd'hui à reproduire pour le bonheur de nos enfants, notre propre bonheur et, bien sûr, sa gloire à lui. Amen.